Dans l'évangile de Matthieu, s'il vous plaît. On va tourner au chapitre 21. Alors, si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous aimeriez suivre. On va vraiment être dans les Écritures ce matin. Juste lever la main, les placeurs vont se faire un plaisir de vous apporter une Bible. Tournez dans Matthieu 21. Si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vous allez pouvoir suivre à partir du verset 23. Et Alexandre va nous faire la lecture dans quelques instants. Je voulais prendre le temps, premièrement, de vous souhaiter une bonne année. Une bonne année dans le Seigneur. Que Dieu, cette année, vienne remplir vos cœurs de sa paix. Qu'il vienne remplir vos cœurs de sa paix, qu'il vous aide à savourer sa grâce. On a tellement besoin que Dieu vienne nous révéler entièrement la grâce qu'on a en Christ. D'avancer par cette grâce et par cette paix. Et c'est ma prière pour vous ce matin, pour cette année, pour toute l'Église, que Dieu vienne remplir vos cœurs de sa paix en 2010. Que vous puissiez vous abandonner dans sa grâce. Et Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir abondamment. Il y a des gens qui traversent des épreuves difficiles actuellement dans l'Église. On pense évidemment à ma belle famille avec Jonathan et Judith qui sont passés par le feu littéralement. Le 2 janvier, la maison a passé au feu. Vous êtes au courant. Ils apprécient vos prières. Évidemment, on est plus près d'eux. On est assez au courant. Et ils ont besoin qu'on continue à prier pour eux. Ça va être énormément de travail. On va vous tenir au courant comment est-ce que vous pouvez donner un coup de main peut-être. Mais je pense aussi à notre sœur Suzanne Panton qui a perdu son frère pendant la période des fêtes. Alors, il y a des gens qui passent à travers des épreuves. Et c'est ça l'Église. Pendant ce temps-là, on a des joies extraordinaires avec Florence qui a vu le jour, Florence Gosselin, avec Amy Joseph qui a vu le jour. Alors, il y a des bénédictions, il y a des joies, il y a des peines. Et on vit ça en famille. Que Dieu vous bénisse cette année abondamment. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués pour notre repas de Noël, notre spectacle. Ça a été un moment béni. Très simple, mais tellement béni. Amen. Amen. Évidemment, il y a Alain, Caz, avec toute l'équipe de la louange. Il y a Camille et Josiane et les gens qui paraissaient. Mais il y a Marie-Josée et toute l'équipe pour le repas que je voudrais remercier. Et tous ceux et celles qui s'occupaient des petits-enfants. Que je voudrais remercier Brigitte et toute l'équipe. Merci infiniment. C'est vraiment une bénédiction. Je pense aussi à Gérard Garland et son équipe qui ont vraiment été une joie pour nos enfants et un temps dans la parole aussi pour les petits pendant le spectacle. Je voudrais vous remercier de tout cœur. Je veux vous encourager. Je veux mettre mon poids, si j'en ai, devant vous pour vous encourager à vous lever plus tôt le dimanche matin et venir ici à 9h. Vous avez besoin de plonger les regards dans la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, vous êtes dans une assemblée qui met un accent tellement fort sur la parole et sur l'enseignement. Et nous sommes bénis avec d'excellents enseignants. Alors, je veux vous encourager très fortement à amener vos enfants de grâce à 9h à l'école du dimanche, tous les dimanches matins en 2010. Et à venir vous-même dans les classes. Je pense aux jeunes de collège et carrière. Levez ce corps, mes amis! Levez-le, faites quelque chose. Et soyez ici à 9h pour venir plonger les regards dans la parole de Dieu. Je veux vous encourager aussi à vous reprendre en main s'il y a du relâchement pour lire les Écritures tous les jours. Vous savez le privilège qu'on a depuis qu'il y a l'impression, depuis qu'on vit dans une société qui est tellement alphabétisée? Nous avons le privilège des rois d'Israël. C'était David le roi qui avait sa copie des Écritures, qu'il devait lire tous les jours. Et ce privilège de roi nous est offert parce que nous pouvons lire et que nous avons la parole de Dieu dans notre foyer, sur notre table de nuit. Alors encore une fois, abandonnez-vous dans la grâce de Christ, laissez le passé derrière vos indisciplines et recommencez à prendre un temps chaque jour avec le Seigneur. Simplement quelques versets, un chapitre, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien. À votre mesure, mais venez rencontrer Dieu car il vous attend. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. On va demander à notre Dieu de venir parler à nos cœurs par sa parole. Je vais laisser la parole à Alexandre.
Matthieu 21, et on va lire les versets 23 à 32 ensemble. Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit: « Je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi en eux: si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble? Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit: je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent: le premier. Et Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui.
C'était la parole de Dieu. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux t'adorer ce matin. Nous venons, Seigneur, nous placer sous le ministère de ta parole ce matin, afin que tu touches nos cœurs, que tu parles à notre être entier, Seigneur. Père, dans cet échange entre ces chefs religieux et Jésus, il y a, Seigneur, un non-respect, une violence qui est faite à la personne de Christ. Une attitude et des intentions, Seigneur, machiavéliques. Et ces hommes qui prétendaient servir Dieu servaient le diable, servaient leurs ambitions. Derrière ces questions, Seigneur, des cœurs mal disposés étaient présents. Et Jésus, t'entendre leur répondre, les instruire avec cette grâce et cette autorité qui est unique à toi, Jésus, c'est voir encore une fois ta gloire. Viens nous parler par ta parole, Seigneur. Viens nous instruire par ces hommes malveillants, Seigneur, et par les remontrances, les reproches que tu leur as adressés. Viens appliquer ta parole à nos cœurs, Seigneur. Dans ta grâce, je te prie d'être avec moi. Aide-moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et sonde-moi, ô Dieu. Que je sois intègre dans tes voies. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Est-ce que Jésus vient de Dieu ou est-ce qu'il est un phony baloney? Vous connaissez ça, cette expression-là? Non? Ma mère, elle disait ça quand j'étais petit. Qui connaît ça, phony baloney? C'est pas jeune, hein? OK. Il y a quelques jeunes. Phony baloney. Ma famille disait ça. Un phony baloney, c'est un fake, pour le dire en français, ou un poser, pour le dire encore une fois en français, c'est quelqu'un qui prétend être quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est la question qui est vraiment importante. C'est de cette question-là que tout découle, tout le reste. Est-ce que Jésus vient du ciel? Est-ce qu'il avait une autorité céleste pour faire ce qu'il faisait et pour dire ce qu'il disait? Moi, je trouve que la question des chefs religieux est extrêmement bonne. C'est la question, c'est la bonne question à poser. Qu'est-ce que Jésus était? Est-ce qu'il était juste un homme comme les autres? Peut-être un peu plus sage que les autres grands chefs de religion ou les autres grands chefs religieux, mais un homme, point. Voyez-vous, c'est la vraie question. Une fois que j'ai tranché cette question-là, les choses deviennent beaucoup plus simples. Si Jésus vient du ciel, s'il tient son autorité de Dieu, cela a beaucoup d'implications dans ma vie. Mais d'un autre côté, s'il ne vient pas de Dieu, mais ce que tu fais, c'est que tu l'écoutes. Si tu considères que Jésus de Nazareth n'était qu'un homme, peut-être plus sage que la moyenne des hommes, avec des bons principes, des principes millénaires, tu l'écoutes, t'en prends puis t'en laisses. Et tu vas certainement puiser ailleurs aussi pour avoir la sagesse universelle. Est-ce que Jésus vient de Dieu? C'est ça la question. Maintenant, Jésus fait sortir une autre question qui est peut-être la vraie question dans le fond. C'est, est-ce que tu veux le savoir vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment savoir si Jésus vient de Dieu ou non? Est-ce que les chefs religieux voulaient vraiment le savoir en fin de compte? Est-ce qu'ils étaient prêts à entrer en eux-mêmes dans une poursuite de la vérité sur Jésus pour savoir si Jésus venait vraiment de Dieu ou non? Parce qu'il y a quand même des avantages, il y a certains avantages à ne pas prendre position, à ne pas trancher sur la question, c'est beaucoup moins engageant. Tant qu'on ne tranche pas, on ne rejette personne. Puis d'un autre côté, on ne doit pas vraiment de compte à personne non plus. Tant que je n'ai pas tranché à savoir si Jésus vient de Dieu, si son autorité vient du ciel, je ne lui dois pas de compte nécessairement, je ne l'ai pas rejeté non plus. Mais si Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu, bien logiquement, il y a beaucoup d'implications. Je vais devoir lui rendre des comptes s'il est vraiment le Fils unique de Dieu. Mais tant qu'on ne se mouille pas, tant qu'on ne tranche pas, respect, man. On respecte tout le monde. C'est tout. C'est de même que ça marche. Et je vais peut-être vous choquer ce matin. Parce que vous voyez ces chefs religieux qui étaient des gens fourbes, des gens croches dans le fond. Mais moi, je trouve que la société québécoise ressemble assez aux chefs religieux qu'on retrouve dans le passage ici ce matin. En ce sens qu'on ne veut pas trancher. On ne veut pas prendre position sur Jésus. Il y aurait beaucoup trop d'implications. Et je ne compte plus les fois où j'ai discuté de la foi, de la religion, de Jésus-Christ avec un Québécois et je n'arriverai pas à savoir ce qu'il croit. Voyez-vous, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple viennent à Jésus en lui posant une question, mais dans le fond, ils ne sont pas du tout intéressés à la réponse. Ils ne cherchent pas à savoir la vérité sur Jésus. Ils ne voudraient pas être obligés de dire ce qu'ils pensent. Ce serait beaucoup trop engageant. Et c'est la première chose que Jésus va mettre en évidence. Il va révéler l'attitude de leur cœur. Tout ce que Jésus fait dans le passage ici, c'est qu'il amène en plein jour ce qui se passe dans le cœur de ces gens-là. Jésus va démontrer qu'ils ne veulent pas vraiment répondre eux-mêmes à la question. Ils ne veulent pas vraiment savoir d'où Jésus tient son autorité. Jésus fait cette manœuvre-là avec le doigté qu'on lui connaît. Il retourne simplement la question. Alors, plutôt que de se tourner vers eux et de dire, ben, d'après vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que mon autorité vient de Dieu? Alors, au lieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va leur demander, qu'est-ce que vous pensez de Jean-Baptiste? Il leur parle de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est le précurseur de Jésus. Voyez-vous, selon les Écritures, lorsque le Messie allait venir, Un prophète devait le précéder et ouvrir la voie. Ce prophète-là, selon Jésus, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus et les ministères de Jean-Baptiste et de Jésus étaient intimement liés. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, voici ce qu'il a dit. « C'est lui! Je vous parle d'un gars depuis des semaines, depuis des années. C'est lui le Messie! » C'est ce que Jean a fait lorsqu'il a vu Jésus arriver. Jean annonçait Jésus. Jean annonçait un Messie qui viendrait. Et lorsqu'il a vu Jésus arriver, il a dit, « C'est lui le Messie. » Leur réponse, la réponse des chefs religieux à la question de Jésus sur Jean-Baptiste va les obliger, va impliquer leur position par rapport à Jésus. Si les chefs religieux disent que le baptême de Jean venait de Dieu, que lorsque Jean disait que c'était un temps de repentance et qu'on devait se faire baptiser pour témoigner de notre repentance et de revenir à Dieu, et quand Jean disait que le Messie devait venir, et quand Jean disait que c'était Jésus de Nazareth le Messie, si les chefs religieux disaient « le baptême de Jean vient de Dieu », ils sont en train de dire que Jean est un prophète, qu'il a annoncé le Messie et qu'il avait raison de dire que Jésus de Nazareth était le prophète, était le Messie. Les gars sont coincés parce qu'ils ne s'en venaient pas avec une vraie question. Et je ne compte plus les fois où j'ai discuté avec des Québécois qui parlent avec moi de la foi, mais qui ne veulent pas se mouiller. Ils ne sont pas intéressés. Pas vraiment. Ces hommes-là sont coincés. Jésus le fait d'une manière extraordinaire. Il les plaque dans la bande. Ils sont coincés là. C'est brillant de la manière que Jésus le fait, mais je ne pense pas que Matthieu veut nous montrer comment Jésus est un habile discoureur ici et combien il est efficace, combien il maîtrise parfaitement la situation. C'est pas ça qu'il veut démontrer. En fait, c'est assez évident. Matthieu veut nous montrer les motifs et l'attitude de ces gens-là. Simplement pour vous situer dans l'évangile de Matthieu, à l'endroit où on est rendu, on est vraiment dans la dernière semaine. Et la tension va monter. Dimanche prochain, on va continuer à le voir ensemble. La tension va monter jusqu'à un point où les chefs religieux vont sentir qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent se débarrasser de cet homme-là. Alors, ce que Matthieu fait ici, tout simplement, c'est qu'il est en train de positionner les adversaires, de les exposer, de les mettre au grand jour. C'est ce que Jésus fait, c'est ce que Matthieu veut nous montrer ici. Il veut nous montrer l'attitude de ces gens-là. Et c'est simple, ils ne veulent pas vraiment connaître la réponse à leurs questions. Ils ne veulent surtout pas entrer en eux-mêmes pour s'interroger sérieusement. Ils ne veulent pas prendre position. Ce serait beaucoup trop impliquant. Pensez-y un instant. Ces chefs religieux qui sont censés être la lumière du peuple, éclairer le peuple, s'opposent au ministère de Jésus depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que progressivement, ils s'opposent de plus en plus au ministère de Jésus. Depuis 3 ans, Jésus met en lumière leur péché. Et plus on avance dans le temps, plus on approche du moment de l'arrestation, de la crucifixion, plus les altercations deviennent évidentes et agressives. Jusqu'au moment où Jésus va tout simplement leur dire « Gang d'hypocrites !» Jésus a mis en lumière leurs péchés, leurs hypocrisies, leur religiosité, le fait que ce sont des bigots. Un bigot, c'est quelqu'un qui prend la foi, la religion et qui va dans tous les détails et qui s'attache à chacun des détails pour après ça en faire une mesure sur toutes les gens autour de lui, qui perd complètement de vue la relation avec Dieu, mais qui est pris dans sa petite religion puis qui dit « voici comment ça doit se faire » puis tu vois, toi, tu n'as pas fait ça exactement comme ça, donc tu n'es pas correct. Ça, c'est un bigot. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a mis en lumière progressivement, pendant 3 ans, le fait que ces gens-là sont des bigots. Et s'il fallait qu'ils disent à Jésus, le ministère de Jean, le baptême de Jean vient du ciel. Imaginez-vous l'implication. Pour leur vie, pour leur image, ça fait 3 ans qu'ils s'opposent. Que Jésus leur dit, faites comme eux, mais arrêtez par exemple de les suivre. marchez dans la sainteté, mais prenez-les pas comme exemple vraiment. S'il avait fallu à ce moment-là qu'ils entrent en eux-mêmes et qu'ils disent « c'est vrai Jésus, tu viens de Dieu, on a vu tes miracles, on a vu ta grandeur, on a vu ta splendeur », mais c'est leur carrière qui vient de tomber à l'eau. Ils devraient à ce moment-là commencer à dire au peuple d'Israël « c'était lui en fin de compte le Messie ». Et ils devraient se repentir de cela, confesser au peuple qu'ils s'opposaient au Sauveur qu'ils attendent depuis des siècles. Ils devraient commencer à suivre Jésus, obéir à Jésus dans toute sa simplicité. Hey, c'était une institution, cette affaire-là. Mais là, s'il faut tout être comme Jésus, on perd tout. Ces gens-là ne sont pas intéressés à avoir un tel bouleversement de vie. Ils ne sont pas intéressés à ce que leur vie change. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'en lisant le passage, en étudiant le passage, j'avais l'impression de retrouver un peu la société québécoise qui, avec la foi, est rendue à un niveau où on discute, on partage, on échange. Mais est-ce qu'il y a une démarche où je veux vraiment connaître Jésus et savoir s'il vient de Dieu ou si c'est un fourni baloney? Mais tranche, prends position. Alors, tu sais, moi j'aime tout le monde, je respecte tout le monde, je rejette personne. Tu sais, Jésus, c'était un grand homme. C'est clair que c'est un grand homme. C'est un homme qui a fait beaucoup de bien. En fait, c'est sûr qu'il a fait beaucoup de bien. Ça te fait du bien à toi. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour ça, le fait que ça te fait du bien à toi. C'est quoi ça? T'as rien dit. C'est quoi que tu crois? Je ne sais pas. T'as pas pris position. Je ne sais pas du tout c'est quoi ta position. Tu respectes le bien qu'il me fait à moi. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu crois que Jésus vient de Dieu? Ou est-ce que c'est un fourni baloney? Un hurluberlu? Un menteur? Un usurpateur? Le nouveau dirigeant d'une nouvelle secte mondiale? C'est quoi que tu crois? Quand tu vas te retrouver devant Dieu un jour, quel nom vas-tu invoquer? Quel nom vas-tu évoquer lorsque tu vas te retrouver devant Dieu? Pas les noms de tous les saints, de tous les dieux que les hommes se sont donnés. Pas tout puis rien. Si Jésus est le Fils unique de Dieu qui est venu mourir sur une croix, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus ou les autres. Et c'est ça le scandale de la foi chrétienne. C'est que Jésus est venu et il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand tu vas te retrouver devant Dieu, évoquer Dieu et Jésus et toutes les autres divinités, tous les saints que les hommes ont conçus, ne te mènera à rien. Qui vas-tu évoquer? En qui est-ce que tu crois? Je ne rejette personne, j'accepte tout le monde. Voyez-vous, les chefs religieux, c'était des politiciens. En termes québécois, en termes contemporains, on dirait que c'était des carriéristes. Alors, ces gens-là sont coincés. Hein? C'est leur carrière, tout est en jeu. Il y a plein de choses qui sont en jeu. C'est leur standing, c'est leur image publique. Ce sont des politiciens. Dans un sens, quand tu lis les Écritures et tu apprends à les connaître, je veux dire, c'est gros, là. Il faut vraiment que les gars veulent un changement de vie profond. Je peux comprendre comment ça se passe dans leur tête. Il y a trop d'enjeux. Si Jésus est arrivé et il leur avait dit, « Les gars, vous êtes hot. Moi, je suis hot. Regardez bien, je peux faire plein de miracles. On peut-tu travailler ensemble? » Je vais embarquer dans votre gang, OK? Puis je vais dire à tout le monde que vous êtes les meilleurs. Je vous garantis qu'il n'aurait pas été crucifié. Mais ce sont des politiciens pour qui leur carrière religieuse est menacée. Vous et moi, nous ne sommes pas des politiciens. Comment ça se fait que lorsque je parle des fois avec des Québécois, puis qu'on parle de la foi et de la religion, j'ai l'impression de parler avec un politicien? Moi, je respecte tout le monde. J'aime tout le monde. Tu sais quoi? C'est rien, ça. Ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu veux prendre position? Et remarquez qu'il y a peut-être des personnes qui ne prennent pas position parce qu'ils n'ont pas encore assez d'informations. Je comprends ça. Mais après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, il faut que tu prennes position. La vie est courte. Quel nom vas-tu évoquer de l'autre côté? T'es mieux de trancher cette question-là maintenant. Je reviens à mon passage, d'accord? Ça, c'est la première discussion entre Jésus que j'ai résumée ici sur la question de Jean-Baptiste. Jésus les laisse sur cette question et il continue avec une parabole, avec une histoire pour les enseigner. Jésus vient juste de mettre en lumière le fait qu'ils ne cherchent pas vraiment une réponse à leur question, qu'ils ne veulent pas se mouiller. Et pourtant, ils savent que Jésus a fait tout plein de miracles. Voyez-vous, ces gens-là ne sont pas en train de dire « Faites attention, peuple d'Israël, c'est pas vrai ces miracles, c'est pas ça l'histoire. » Ils savent qu'il fait des miracles, c'est ça leur problème. Alors, ils connaissent les miracles, ils connaissent la puissance qui l'accompagne, ils auraient pu croire en lui. Maintenant, Jésus va leur parler d'un autre élément qui devrait les amener à croire et à prendre position pour lui. Et il s'agit des vies qui sont transformées par le ministère de Jésus. Il s'agit des vies qui ont été bouleversées par le ministère de Jean-Baptiste, par le ministère de Jésus, par le ministère de la parole de Dieu. Vous savez, on peut se poser des questions sur Jésus. Sur Jésus-Christ. C'est quand même gros ce qu'il nous demande de croire concernant sa personne, concernant ce qu'il est. Il est le Fils unique de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous pouvions être sauvés. C'est gros à croire, ça. C'est énorme. Et je conçois ça. Mais quand tu rencontres des gens qui ont vu leur vie prendre un nouveau départ, se reconstruire en Jésus-Christ, c'est quand même pas mal bouleversant. Et il y a de quoi commencer à s'interroger et commencer à croire. Regardez les versets 28 à 32. Matthieu 21, 28. Que vous en semble? Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Le fils répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Jésus aurait pu dire, soit. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jésus leur dit, « OK, vous avez de la difficulté à croire en moi. Vous trouvez que c'est difficile de croire qu'un petit juif qui ne vient pas de l'institution religieuse, qui est un fils de charpentier, qui est né dans un petit village, puisse être le sauveur des juifs, voire le sauveur de l'humanité. » Ça va, je peux comprendre que c'est difficile à croire. Mais que dire des vies qui ont été transformées par le message de Jean-Baptiste et de Jésus. Jésus vous dirait aujourd'hui la même chose. Vous vivez en 2010, la parole de Dieu a été attaquée de toutes parts, sa crédibilité, on a essayé d'y porter atteinte, on en fait des films pour faire de l'argent, on écrit des romans, ces romans ont plus d'autorité que la parole de Dieu, ça devient profondément ridicule, mais c'est troublant, c'est mêlant, il y a toutes sortes de mouvements, qui dit la vérité, où est-ce qu'elle est la vérité, qu'est-ce qui se passe? Jésus vous dirait, je comprends. Mais si Dieu place sur ton chemin une vie qui commence à être bouleversée par Jésus-Christ, est-ce que tu vas avoir l'intégrité de t'intéresser et d'entrer dans une quête sérieuse? pour savoir si Jésus est un phony baloney ou si c'est le Fils de Dieu. Jésus leur dit, regardez les publicains. Vous savez, les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. Je veux dire, c'est simple, c'était des voleurs, puis c'était des traîtres à la nation. C'était des êtres irreligieux. C'était des êtres qui n'en avaient rien à cirer de Dieu. Et les prostituées, des vies brisées dans la débauche. Jésus leur dit, oui, mais regardez, ces gens-là ont entendu le message de Jean-Baptiste et leur vie a commencé à être bouleversée. Ces gens-là se sont repentis de leurs péchés. Il y a eu des vies transformées par le message de Jean-Baptiste et par le mien. Il leur dit, quand vous voyez ces vies transformées par le message de Jean-Baptiste, vous auriez dû à ce moment-là vous repentir et croire aussi. Quand Dieu, dans ton entourage, prend une vie tout croche, dans le péché, la débauche, voire la drogue, et qu'il commence à transformer cette personne, il y a de quoi commencer à croire et commencer à s'interroger. Entrer dans une démarche sérieuse avec Jésus-Christ. Porter l'oreille, prêter l'oreille pour savoir si Jésus vient de Dieu, aller examiner les Écritures. C'est tangible, c'est concret, c'est près de toi, dans ton entourage. Le simple fait que Dieu amène la vie, produise un éveil dans un cœur qui était prisonnier du péché, amène cette personne à abandonner son ancienne vie pour marcher dans les voies de Dieu, déjà cela devrait te conduire à la foi en Jésus-Christ. Et ces miracles-là ont lieu encore aujourd'hui, très nombreux. Parfois, c'est absolument extraordinaire, comme Kim Fook, qui est venu ici il y a quelques années donner son témoignage. Cette petite fille qui avait été brûlée par une bombe au napalm pendant la guerre du Vietnam. Lorsque Kim Fook, qui avait vu sa vie brisée, sa santé encore atteinte, elle me racontait toutes les séquelles quotidiennes qu'elle a de cette brûlure au troisième degré, à la grandeur de son corps, tout son dos au complet. Et elle me partageait cela. Et le fait que cette femme, lorsqu'elle est entrée en contact avec le pilote américain qui a fait une erreur technique, qui a pesé sur le bouton, qui a largué la bombe au napalm, qu'elle est allée lui donner, lui serrer la main et qu'elle lui a dit, à cause de Jésus-Christ, vous savez quoi? Je vous pardonne entièrement. Ma vie brisée. Et des témoignages comme celui de Tony Anthony. Des vies brisées par la criminalité, qui sortent de la criminalité. Ou je pense au cousin de notre sœur André Larue. Elle avait partagé ça un dimanche matin. Son cousin, qui est un ancien Hells, qui est en prison aux États-Unis, probablement à vie, accusé de meurtre, et qui donne sa vie à Jésus-Christ en prison, qui écrit une lettre à sa cousine pour lui dire, « Tu sais quoi, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. » Puis tu lis ses lettres, tu as l'impression que c'est un pasteur qui t'écrit. Ce sont des miracles que Dieu fait qui devraient bouleverser nos cœurs si nos cœurs n'étaient pas si endurcis. Ce sont des vies brisées que Dieu a transformées par la puissance de l'Évangile. Ce sont des miracles. Mais Dieu fait de ces miracles-là plus près de nous aussi. De véritables miracles de vie transformées. Et probablement que j'en connais plus que chacun d'entre vous, parce que je suis pasteur et j'ai ce privilège que tellement de gens viennent me confier, viennent me partager des choses que Dieu est en train de faire dans leur vie. Mais vous savez, par la puissance de l'Évangile, il y a des pardons qui sont accordés pour des choses impardonnables. Il y a des chrétiens qui pardonnent des choses qui, humainement, sont impardonnables. Humainement, tu ne continues pas comme ça. Mais la puissance de l'Évangile est venue transformer leur cœur pour leur accorder la grâce de pardonner l'impardonnable, d'un pardon tellement beau. Ce sont des miracles qui devraient bouleverser ton cœur si tu te questionnes sur Jésus. Il y a des actes de foi incroyables. Il y a des vies brisées qui sont restaurées. Il y a des gens qui affrontent la mort, la maladie avec une sérénité qui vient de Dieu. dans notre assemblée, dans notre église, autour de vous, vous voyez de ces miracles. Et peut-être que vous fréquentez l'église depuis 15 ans et vous n'avez pas encore tranché sur Jésus-Christ. Il y a des enfants qui se réconcilient avec leurs parents. Il y a des actes de générosité et de solidarité merveilleux. Il y a un dévouement pour servir Dieu, pour prendre soin de frères, d'un frère, d'une sœur dans la foi, avec qui on n'avait rien en commun sinon Jésus-Christ. Découvrir l'Église, la communauté de l'Église, aussi imparfaite soit-elle, c'est entrer en contact avec les miracles de Dieu, je vous l'assure. Et ceux qui bénéficient dans des moments difficiles de l'amour du peuple de Dieu savent que c'est entrer en contact avec des miracles de Dieu. Il faut réaliser que si ce n'était pas par la puissance de l'Évangile et du nom de Jésus-Christ, nous serions tous ailleurs ce matin, en train de faire autre chose et pour beaucoup d'entre nous, avec une vie tout croche. Mon cas, en tout cas, je peux vous l'assurer. Vous savez, par la grâce de Dieu, je vis avec Esther un beau mariage. Je pensais cette semaine, c'est quoi les miracles, Seigneur? C'est un miracle. Qu'après 17 ans de mariage, Esther et moi, nous nous aimions comme ça. Avec l'héritage que moi j'ai reçu et qu'elle a reçu sur ça, sans la puissance de l'Évangile, je vous donne ma parole ce matin. Je ne suis même pas capable de concevoir que je serai encore avec Esther et que je serai encore en amour avec ma femme. C'est juste la grâce quotidienne, la puissance de l'Évangile qui fait que j'aime aussi tendrement ma femme et qu'elle m'aime après 17 ans de mariage. C'est un miracle, ça. Et que mes enfants peuvent nous regarder et dire, « Papa, on est bien, hein? » En arrivant avec toutes sortes d'histoires d'amis à l'école, en disant, « Oui, mais il y a de l'amour ici, vous vous aimez. » C'est un miracle, c'est la grâce de Dieu. Regardez les temps et les moments où nous vivons. C'est un miracle, c'est la grâce de Dieu dans notre foyer concrètement. Et il reste encore plein de chemin à faire. Ça aussi, c'est temps pour vous le dire. C'est le message que Jésus apporte à ses chefs religieux dans Matthieu 21. Si vous avez de la difficulté à vous prononcer sur Jésus-Christ, si vous avez de la difficulté à croire, croyez au moins à cause des miracles qu'il fait, et il en fait encore aujourd'hui beaucoup de ces miracles de vie transformée. Vous en connaissez si vous fréquentez des chrétiens depuis un bout de temps. Et Dieu sait qu'on est imparfait. Et Dieu sait qu'on lutte avec le péché. Alors, si vous entendez parler de Jésus-Christ depuis quelques mois, depuis des années, et que vous n'avez toujours pas pris position, voici la question que Jésus vous poserait si vous étiez devant lui. Voici la question qu'il vous pose ce matin. Est-ce que je viens de Dieu ou est-ce que je suis un phony baloney? Et tout probablement que tu as assez d'informations pour répondre à la question. Si vous avez vu ces miracles, si vous avez entendu le message de l'Évangile, c'est le temps de prendre position. Et d'arrêter de niaiser avec le POC, comme on dit au Québec. Maintenant, je sais que la majorité d'entre vous vous dites, « OK, Yannick, c'est le fun, il n'y avait rien pour moi là-dedans. » Non, il y a encore un petit morceau. Parce que le message m'a bouleversé, le passage m'a bouleversé. Je sais que la majorité d'entre vous dans la salle, vous avez déjà tranché cette question. Vous avez pris position, vous avez reconnu que Jésus-Christ vient de Dieu, que son autorité vient de Dieu. Je suis conscient de ça. Alors, permettez-moi de sortir un dernier élément du passage. Et cette fois-ci, je m'adresse vraiment à ceux qui ont pris une position par rapport à Christ, tous ceux qui se déclarent chrétiens, tous ceux qui disent qu'ils ont fait leur choix, tous ceux qui disent « Moi, je sais d'où Jésus tire son autorité, elle vient de Dieu, c'est le Fils de Dieu. » Et je pense que c'est vraiment important, ce que j'ai à vous dire ce matin, parce que c'est un des thèmes les plus importants de l'Évangile de Matthieu. Vous savez, les chefs religieux disaient qu'ils aimaient et servaient Dieu. Ces gens-là allaient au temple ou à la synagogue régulièrement. Ils lisaient les saintes écritures, ils priaient, ils louaient Dieu. Je les ai décrits comme des êtres ignobles. C'était des gens très religieux qui lisaient les écritures, qui chantaient des louanges. Ils chantaient des psaumes comme vous ne serez jamais capable de le faire parce que vous ne mémoriserez jamais autant les psaumes qu'eux autres. Ces gens allaient à la synagogue, ils allaient au temple, ils lisaient les Écritures, priaient, louaient Dieu, mais fondamentalement, ils ne cherchaient pas à marcher avec Dieu parce qu'ils ne voulaient pas obéir et suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Fondamentalement, ces gens qui étaient profondément religieux ne marchaient pas avec Dieu parce qu'ils ne voulaient pas obéir et suivre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, dans sa petite histoire avec les deux frères, Jésus leur pose une question avec cette histoire. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? C'est simple. C'est celui qui s'est repenti puis qui est allé travailler dans le champ. Voyez-vous, l'ensemble du passage parle d'autorité. Et pour un bon chapitre encore, ça va être ça le sujet. Quelle est l'autorité de Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est croire en lui? Est-ce que c'est le suivre? Et le passage nous parle de l'autorité de Christ, comment faire la volonté de Dieu, comment suivre Jésus-Christ. Les chefs religieux ne voulaient pas croire en Jésus parce qu'ils auraient dû s'humilier et changer de vie, se repentir et changer. Il y a beaucoup d'implications à reconnaître que Jésus-Christ vient de Dieu et tire son autorité de Dieu. Ce n'est pas pour rien que ces gens-là niaisaient avec le POC et qu'il y a tellement de monde qui ne veulent pas se mouiller. Je rejette personne, j'endosse personne, personne n'a une autorité sur ma vie. Et ces hommes-là le faisaient au péril de leur éternité comme chaque personne qui niaise avec cette question-là. Il le fait au péril de son éternité. Mais reconnaître l'autorité de Jésus-Christ, cela implique que lorsque Christ nous demande de faire quelque chose, nous lui devons obéissance. Amen. Est-ce qu'il vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu? Est-ce qu'il tire son autorité de Dieu ou non? Un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, c'est Jésus qui dit ça. Écoutez bien les paroles, c'est vraiment, ça fait trembler, je vous le dis. C'est dans Matthieu 7, Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. » Qui sont ceux sur la terre qui disent à Jésus? Hein, ce n'est pas ceux qui disent à Dieu, c'est ceux qui disent à moi, Jésus, Seigneur, Seigneur. Qui sont ceux qui disent à Jésus, Seigneur, Seigneur, sinon ceux qui disent être chrétiens? Alors, traduit, Jésus dit, « Ceux qui se disent chrétiens, chrétiens. » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce sont les paroles de Jésus. Et c'est ça que Jésus vient d'enseigner ici. Parce que les chefs religieux se disaient serviteurs de Dieu. Ils disaient qu'ils aimaient Dieu. Mais quand il venait le temps de servir Dieu en suivant Jésus, ils ne voulaient rien savoir. D'autres, les publicains, les prostituées qui avaient des vies tout croches, eux ont reconnu et ont suivi Jean-Baptiste et ont suivi Jésus. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, je te pose la question directement ce matin. Est-ce que Jésus-Christ t'a demandé, que dis-je? Est-ce que Jésus-Christ t'a commandé de faire quelque chose? Est-ce que par son Saint-Esprit, Christ, le Fils de Dieu, qui a toute autorité, qui règne dans les cieux, qui revient bientôt dans toute sa gloire, t'a convaincu de faire quelque chose dans ton cœur et que tu tardes à le faire? Tu es convaincu que tu es chrétien et tu ne te fais pas baptiser. Repends-toi. Viens prendre position pour Christ si tu veux qu'il prenne position pour toi devant son Père. Tu sais que tu dois annoncer l'Évangile à un collègue de travail. Fais-le en tremblant, mais fais-le! ton épouse ou ton époux a péché contre toi et Dieu te demande de lui pardonner. Par la grâce de Dieu, pardonne-lui et mets ça en arrière une fois pour toutes. Ton frère t'attend pour que tu te réconcilies avec lui. Tu sais que tu as péché. Va lui demander pardon. Dieu t'a convaincu déjà. Dieu veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie, dans tes finances, dans ton temps. Tu le sais. Fais-le. Lequel a fait la volonté du Père, demande Jésus, celui qui s'est repenti et qui est allé travailler dans le champ. Et certains me diront, Yannick, où est la grâce? Où est la grâce, Yannick? On dirait que tu nous prêches la loi ce matin. Au contraire, frères et sœurs. La grâce, c'est justement le fait que des pécheurs comme vous et moi peuvent se repentir de leur péché, venir à Dieu et obéir à Dieu. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que quel que soit notre état ce matin, quels que soient les péchés qu'il y a dans notre vie, quelles que soient nos désobéissances, quels que soient nos manquements, nous pouvons encore nous repentir et venir à lui, lui demander pardon et marcher avec lui. Des publicains, des prostituées, des débauchés qui regardent la pornographie sur Internet, des menteurs, des paresseux, des adultères, des égoïstes, des gamblers, des peureux, des violents, des chrétiens sans passion pour Christ ou remplis d'amertume. Tous ces gens-là, Jésus-Christ les attend. Il leur pose une question. Est-ce que tu sais que je viens de Dieu? Est-ce que tu sais que je suis mort sur la croix pour tes péchés? Entends ce que j'attends de toi maintenant. Viens et entre dans ma vigne. Obéis à ton Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas la loi. C'est la loi de la grâce. La loi de la grâce dit que je ne resterai pas dans le péché parce que tout m'est pardonné. La loi de la grâce dit, je veux m'approcher d'un Dieu saint et même si je tombe 300 fois, il va me pardonner 300 fois. Je dois me repentir et venir m'abandonner à la grâce de Christ. Être touché par sa grâce, saisir son pardon et me relever. Est-ce que tu as tranché la question? Est-ce que Jésus-Christ est ton Seigneur? Est-ce qu'il t'a parlé? Si son autorité vient de Dieu, soumets-toi et tu vas être heureux dans ses voies. C'est en Jésus-Christ qu'on va avancer ensemble. On va prier. Père éternel, Seigneur, il y a tant de joie à marcher dans tes voies. C'est vrai, Jésus, que ton joug n'est pas lourd, ton fardeau est léger parce que tu es gracieux, parce que tu nous pardonnes et tu nous pardonnes encore. Chaque fois que nous nous repentons, que nous venons à toi, tu nous pardonnes, tu nous fais grâce, tu nous accueilles, tu nous soutiens, Seigneur. Oh, s'il fallait que nous soyons parfaits pour te plaire, ce serait insupportable. Parce que, Seigneur, nous sommes encore comme ces publicains, ces prostituées. Nous péchons si souvent, Seigneur, contre ta parole. Mais ta grâce, ô Jésus, nous convainc de nous repentir, de nous détourner de nos mauvaises voies, de ne pas rester assis dans notre péché, mais de venir au contraire, au pied de la croix, accepter ton pardon pour marcher encore une fois dans la sainteté. Seigneur, je te prie de saisir nos cœurs à chacun d'entre nous qui nous réclamons du nom de chrétien. Seigneur, nous voulons porter le nom de saints graciés, d'hommes et de femmes qui marchent dans la sainteté par la grâce. Par la grâce. Et Père, j'aimerais te prier pour tous ceux et celles qui sont au milieu de nous, jeunes et moins jeunes, qui restent là à observer, à examiner, à questionner, sans jamais se mouiller. Sans jamais prendre position pour toi, Seigneur. Oh, convainc-les par ton Esprit Saint. Et dans ta grâce, fais d'eux des disciples de Jésus-Christ qui marchent à ta suite. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Qu'on puisse marcher.